Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RFI et France 24 pour la rentrée d'Ici l'Europe. Et nous vous proposons aujourd'hui une invitée qui sait tout de la vision européenne d'Emmanuel Macron, puisqu'elle n'est autre que sa ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors après une longue carrière de diplomate, vous avez pris la direction de l'ENA, l'École nationale d'administration, en 2012. En juin, vous entamez une nouvelle vie en entrant au gouvernement. Depuis, vous êtes de tous les déplacements du chef de l'État, des déplacements européens, évidemment, puisqu'il a promis de se rendre dans tous les pays de l'Union au cours de la première année de son mandat, avec un objectif bien précis, un grand chantier en tête, la refondation de l'Europe.
Alors Nathalie Loiseau, le président français, on l'a vu, a de grands projets pour l'Europe. Quelle est votre feuille de route à vous, très concrètement ?
Concrètement, le président français est le seul des candidats à l'élection présidentielle à avoir fait campagne en faveur de l'Europe. Il a été élu, ça a été un soulagement considérable partout à travers l'Union européenne qu'on a senti tout de suite. Alors non seulement il se déplace partout dans l'Union et je l'accompagne, mais toute l'Europe vient en France rencontrer ce président français pro-européen. Mais pro-européen, ça ne veut pas dire pro-européen béat, naïf ou considérant que le statu quo doit continuer. L'Europe a besoin d'évoluer. L'Europe, de toute façon, va évoluer. Elle va passer de 28 à 27. Il faut qu'elle aille plus vite, plus fort, qu'elle réponde mieux aux attentes des peuples européens. Une attente de protection, que ce soit dans les négociations commerciales internationales. L'Europe, c'est la mondialisation régulée, la mondialisation à visage humain. Mais aussi en matière de lutte contre le terrorisme, de réponse aux défis du changement climatique, aux défis migratoires, d'Europe de la défense. Ça veut dire une Europe qui bouge considérablement par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques mois.
Alors, il a choisi de faire sa rentrée justement en Europe, avec une tournée en Europe de l'Est, où il est allé chercher des alliés pour sa première réforme très concrète, celle de la directive sur le travail détaché. Il a obtenu pas mal de soutien, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, les Bulgares. Et puis, il a aussi déclenché une mini-crise avec la Pologne. Alors, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de vouloir refonder l'Europe en taclant comme ça des pays qui peuvent être aussi des partenaires ?
Alors, la Pologne est un partenaire, c'est un grand pays dans l'Union européenne. La Pologne a commencé en disant, on ne bougera pas sur les travailleurs détachés, la directive telle qu'elle existe depuis 96 nous va parfaitement. Depuis, et après quelques échanges verbaux assez fleuris, la Pologne a bougé, en disant finalement, c'est vrai qu'il faut une révision de la directive travailleurs détachés. De quoi parle-t-on quand on parle des travailleurs détachés ? Ça paraît un concept comme ça, un petit peu abstrait. On parle de circulation des travailleurs à travers l'Union européenne. C'est une très bonne chose et il y a beaucoup de travailleurs détachés français à l'étranger. Ça nous donne d'ailleurs une audience un peu particulière pour parler du sujet parce que nous accueillons aussi beaucoup d'étrangers sur le sol français. Mais on veut parler d'une compétition loyale. On veut parler surtout d'une amélioration de la protection sociale des travailleurs partout à travers l'Europe. Le projet européen, c'est un projet de convergence entre les États membres et c'est un projet d'amélioration.
Alors que les charges sociales ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre et en effet un Polonais ne paye pas les mêmes charges sociales, y compris quand il travaille en France. Mais vous dites, la Pologne s'est dite récemment prête à un compromis, elle est prête à un compromis qui exclut le secteur des transports, qui est un secteur très important, particulier pour elle, 300 000 routiers. Alors est-ce que ça c'est vraiment un compromis à votre, selon votre desiderata et à votre sauce ?
Ce qu'il faut, c'est arrêter d'entretenir un malentendu ou un flou qui n'a rien d'artistique. Nous sommes évidemment favorables au développement du secteur du transport routier international. L'Europe, c'est un endroit où on échange des marchandises. Le secteur du transport routier international est un secteur important. Nous n'avons aucune intention de limiter le développement de ce secteur. Mais aucune raison non plus de considérer que dans un secteur particulier, on utiliserait des facilités du régime du travail détaché et qu'on utiliserait en plus des exceptions. Qu'on viendrait par exemple, par le biais du cabotage, faire une concurrence déloyale en matière de transport national à des entreprises nationales. C'est là où se pose notre position. C'est vrai que certains pays préfèrent entretenir le flou en disant « Oh là là, mais dès qu'on touche au travail détaché, on touche au secteur du transport,
oui, mais ça n'est pas la exact. » Pologne n'est pas le seul dans ce cas, parce que les Espagnols, les Portugais, les Bulgares, enfin il y a énormément de pays qui sont concernés par le secteur du transport. Alors on se dit pourquoi tant insister sur ce secteur, puisque de toute façon il y aura une négociation ultérieure.
Absolument.
Est-ce qu'il ne faut pas l'exclure tout simplement et en toute franchise? Et puis deuxièmement, la réforme proposée par la France, on insiste beaucoup sur la durée maximale du travail, 12 mois maximum sur une durée de 2 ans, c'est ça. Alors, est-ce que le président Macron a une majorité pour une réforme aussi stricte, excluant...
Alors, l'avenir le dira, parce qu'évidemment, on n'est pas encore en train de voter. Mais il y a une écoute, une compréhension qui est meilleure. Vous avez parlé de la Roumanie, de la Bulgarie, et effectivement, le président de la République est allé parler aux autorités bulgares et roumaines, mais aussi à l'opinion publique, qui pensait que nous avions une position protectionniste sur le transport routier international. J'ai revu cette semaine mes interlocuteurs bulgares et roumains. Ils ont bien compris que ça n'était pas le cas. En revanche, la lutte contre les abus, la lutte contre les fraudes, l'utilisation d'un régime particulier au détriment d'une concurrence loyale, ça c'est ce contre quoi nous voulons lutter. Sur la durée maximum, quand on parle de 12 mois maximum dans une limite de 24 mois, quelle est la réalité aujourd'hui sur le terrain ?
Il n'y a pas de contrôle.
Le temps moyen du travail détaché en Europe, c'est 4 mois. Donc quand on met un plafond de 12 mois, on n'est pas irréaliste, on n'est pas en train d'empêcher les travailleurs détachés de travailler, on est en train de lutter contre un détournement de procédure. Quand vous restez plus d'un an dans un pays autre que le vôtre, vous n'êtes pas un travailleur détaché, vous êtes un expatrié. Et à partir de là, ce sont d'autres règles qui doivent s'appliquer.
Alors, dans une tribune publiée dans la presse française, Guy Verhofstadt, un ancien Premier ministre belge, met en garde l'Élysée. Ne nous trompons pas de combat, dit-il. Le problème avec la Pologne, ça n'est pas le travail détaché, c'est l'état de droit. Est-ce que la France soutient suffisamment, et j'insiste sur ce suffisamment, la Commission européenne qui n'a toujours pas de réponse de Varsovie sur cette réforme très controversée de son système judiciaire ?
Alors, Guy Verhofstadt a doublement raison. D'abord, c'est pas forcément un problème, la question des travailleurs détachés. On arrivera, je l'espère, et j'y crois, à un compromis. Et j'aimerais beaucoup que les Polonais soient à bord, parce que je suis convaincue que ce que nous proposons comme texte ne porte nullement atteinte aux intérêts économiques des Polonais. Il ne faudrait pas que ça devienne idéologique. Et là, on en arrive à la nature du gouvernement polonais aujourd'hui, à son positionnement à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est un positionnement qui pose problème. Le président de la République l'a dit haut et fort. C'est même le premier chef d'État à être venu en soutien de ce que disait la Commission européenne. C'est très important. Et depuis, Angela Merkel a fait la même chose. C'est très important. Pourquoi ? Parce que certains, à Varsovie, pourraient être tentés de dire finalement, les critiques qui sont portées vis-à-vis des réformes en Pologne, ce sont des critiques de bureaucrates européens, anonymes, non élus, qui ne rendent pas compte devant leur population. Donc ça ne compte pas. Quand vous avez des pays comme la France et comme l'Allemagne qui disent « Attention !» L'Union européenne, c'est pas simplement un marché unique, ce sont des États membres qui sont réunis par des valeurs communes. Et on sait le combat que la Pologne a mené pour sa liberté. On se souvient quand même.
Ça va être enlevé des manuels d'histoire, le rôle de Lech Walesa, si c'est ce que vous mentionnez.
Y reviendra peut-être un jour. Le peuple polonais est un peuple formidable qui nous a inspirés, qui a inspiré toute l'Europe de l'Est, son combat a conduit à toutes les révolutions de toutes les couleurs que l'on connaît.
Et aujourd'hui, il faut les menacer de retrait du droit de vote, d'aller jusqu'à là ?
Aujourd'hui, il faut aller vers un débat. Il faut qu'en Pologne, les vraies questions se posent. Qu'est-ce que la Pologne attend de l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'elle est prête à y apporter ? Être membre de l'Union européenne, ce sont des droits, ce sont aussi des devoirs. Et en tout cas, c'est un socle commun, et notamment un socle démocratique de séparation des pouvoirs. Il n'y a aucune raison de faire des concessions là-dessus. Les anciens pays du bloc de l'Est ont rejoint l'Union européenne pour retrouver de la liberté. C'est pas pour en reperdre après.
Alors, oui, ce sont tout de même des gouvernements qui sont issus d'élections démocratiques, donc ça correspond aussi au choix de ces peuples. Et il y a un autre pays qui fait de la résistance, hein, avec les règles européennes, c'est la Hongrie, qui cette semaine essuie un double revers. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le recours qu'elle avait déposé avec la Slovaquie, donc parce qu'elle est contre ce plan de répartition obligatoire des réfugiés. Et puis, par ailleurs, elle a demandé de l'aide à Bruxelles pour financer le mur qu'elle a construit sur sa frontière avec la Serbie, et Jean-Claude Juncker a opposé une fin de non-recevoir et il a dit un peu sèchement et vertement que c'est un pays qui recevait déjà pas mal d'aide de l'Union européenne, qu'il fallait jouer le jeu. Alors, avec un tel partenaire, est-ce que c'est possible de discuter et comment ? On a entendu parler d'une visite du président Macron à Budapest, à l'OTAN. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Et comment, quel message la France a-t-elle apporté à la Hongrie et aux autres partenaires du groupe de Visegrad ?
D'abord, la diplomatie, ça consiste à parler à tout le monde, et pas simplement aux gens qui vous ressemblent, sans quoi on ne parlerait pas forcément à beaucoup d'autres États. Le président de la République a déjà rencontré le groupe de Visegrad en juin à Bruxelles, en marge du Conseil européen. C'était un geste fort, c'était une reconnaissance de l'existence et de l'importance de ce groupe. Ça a été compris par les quatre membres de Visegrad de cette manière-là. Ensuite, vous parlez de la question de la gestion des flux migratoires. Pour nous, comme pour la Commission, gérer un afflux massif de demandeurs d'asile, comme ça a été le cas depuis 2015, ça nécessite de la responsabilité et de la solidarité. Les deux vont de pair. Les pays qui accueillent en première ligne les demandeurs d'asile, la Grèce, l'Italie, ont la responsabilité de traiter de leurs demandes d'asile. Mais l'ensemble des pays de l'Union européenne, quand arrive 1 million de demandeurs d'asile, comme ça a été le cas en 2015, doit faire preuve de solidarité. On ne peut pas prendre et choisir les politiques ou les mesures qui vous sont favorables dans l'Union européenne et s'écarter des autres. C'est un tout.
Alors, le président Emmanuel Macron, il veut justement se rendre au plus vite dans toutes les capitales européennes. Oui. Cette semaine, il était en Grèce où il a prononcé un grand discours sur la démocratie. On regarde tout de suite ce reportage.
Pour le porte-parole du gouvernement grec qui a accueilli Emmanuel Macron à l'aéroport, cette visite est symbolique. Elle marque tout simplement la sortie de la crise pour la Grèce. C'est la première visite d'État du président français et ce n'est pas par hasard s'il a choisi la Grèce pour lancer son ambitieux projet de refondation démocratique de l'Union européenne. Il a salué le courage des réformes entreprises par Athènes ces dernières années et a plaidé pour un renforcement de la gouvernance économique de l'Union européenne.
Nous avons besoin d'une puissance économique forte. Oui, nous avons besoin d'une zone euro plus intégrée et donc d'un vrai budget de la zone euro, d'un ministre des Finances permanent qui dirige cet exécutif et d'une responsabilité démocratique au niveau de la zone euro.
Côté grec, on attend aussi beaucoup de cette visite sur le plan économique. Aucune signature de contrat n'est prévue, mais Emmanuel Macron est accompagné de son ministre de l'économie et d'une quarantaine de patrons de grands groupes français.
Alors, Nathalie Loiseau, c'est bien sûr le berceau de la démocratie, la Grèce, mais c'est aussi, dans l'histoire plus récente, l'épicentre de la crise financière qui a failli balayer la zone euro, qui a révélé ses faiblesses, un pays toujours écrasé par 180% de PIB de dette. Est-ce qu'il faut attendre l'élection allemande pour qu'on fasse un peu des cadeaux à la Grèce ?
Alors d'abord, c'est un pays qui est en train de s'en sortir. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron voulait dire et voulait saluer en allant en Grèce, saluer les efforts considérables accomplis par les autorités et par le peuple grec. Il y a eu une austérité qu'on n'imagine pas en France. Et parfois, on aurait envie de dire à nos concitoyens, quand on touche à une mesure ou à une autre, écoutez, regardez ce que d'autres pays dans l'Union européenne ont été capables de faire. On leur doit du respect pour ces mesures et pour leur application. Aujourd'hui, la Grèce est en train de sortir de l'ornière. La croissance revient. La Grèce a émis un emprunt sur le marché au début de l'été. Cet emprunt a été bien reçu.
Donc l'allègement de la dette grecque, parce que c'est le vœu du gouvernement, c'est le vœu des Grecs. Est-ce
alors,
que ça, quand est-ce
part,
que ce sera d'actualité ?
La France a toujours été aux côtés de la Grèce depuis le début de la crise. La France en général, Emmanuel Macron en particulier, avant même d'être président de la République. On croit à la capacité de la Grèce de s'en sortir, et c'était le message.
Mais alors, vous n'avez pas parlé de l'allègement de la dette ?
J'ai parlé de ce qui a déjà été décidé et ça n'est pas dans un voyage bilatéral qu'on va négocier entre la France et la Grèce l'allègement de la Grèce de la dette grecque à la place de l'Eurogroupe. Mais ce qu'on a déjà obtenu, et c'est la France qui a poussé en faveur de cette mesure-là, c'est faire en sorte que le niveau de remboursement de la dette par la Grèce soit lié à son niveau de santé économique. C'est déjà un pas considérable.
Alors, vous n'en avez pas parlé, mais on sait bien que la position sur la Grèce est liée à l'Allemagne, et on attend donc en Grèce, mais aussi en France, dans toute l'Europe, on attend les élections allemandes. Angela Merkel est donnée gagnante des prochaines législatives qui ont lieu le 24 septembre prochain. Le président Macron attend cette échéance pour relancer ce couple franco-allemand qui a toujours été moteur dans l'Union européenne.
Non, le couple, il est déjà relancé. Dès après l'élection d'Emmanuel Macron, il s'est rendu à Berlin. Vous allez me dire que c'est traditionnel. C'est vrai, mais c'était important de le faire. Il y a eu un conseil des ministres franco-allemand le 13 juillet à Paris qui a été extraordinairement substantiel. Je le dis avec d'autant plus de joie que j'en suis le secrétaire général, en quelque sorte, que nous avions choisi d'avoir moins de ministres, mais plus de résultats.
Alors, Merkel 4, imaginons, évidemment, elle est donnée gagnante pour l'instant, Merkel 4, est-ce qu'elle, elle a donné des signaux de volonté, de relance, bien réelle, bien concrète, rapide?
Très clairement. Alors d'abord, disons-nous les choses. C'est vrai que les sondages sont ce qu'ils sont, que le suspense est plutôt mince. En tout état de cause, quel que soit le gagnant de l'élection allemande fin septembre, ce sera un parti pro-européen. Et donc on est véritablement dans une dynamique. On avait une année 2016 assez dépressive en Europe. On a une opportunité en 2017 de faire des choses. Je vous parlais du Conseil des ministres franco-allemands du 13 juillet. À cette occasion, la chancelière, bien que déjà en campagne électorale, a donné des signaux très clair que, notamment sur l'avenir de la zone euro, elle était favorable à davantage d'investissements, qu'elle était favorable à une meilleure gouvernance de la zone euro, à la fois plus claire et plus démocratique. Donc oui, nous avons un agenda devant nous qui est un agenda ambitieux mais réaliste.
En même temps, elle veut stopper les négociations avec la Turquie. Ça, elle l'a dit lors d'un débat télévisé. La France semble sur la même ligne. Alors, on en est où de cette candidature turque? Elle va être gelée?
Alors, c'est pas exactement ça qu'elle a dit, et elle a répondu à une prise de position de son opposant politique dans le cadre d'un débat de campagne électorale. Il faut remettre les choses dans leur contexte, d'autant plus que, et on doit le regretter, les autorités turques ne se sont pas privées d'intervenir dans la campagne électorale allemande. Et on comprend et on partage entièrement l'exaspération des partis politiques allemands qui entendent des autorités turques donner des bonnes et des mauvaises notes aux partis et donner des consignes de vote à la communauté turque en Allemagne. Je pense qu'il faut replacer les déclarations d'Angela Merkel dans ce contexte-là, et elle a toute notre compréhension. La réalité aujourd'hui, c'est que sur le terrain, les négociations d'adhésion entre l'Union européenne et la Turquie sont au point mort. Rien n'avance parce que les autorités turques ne donnent aucun des signaux favorables que l'on attend pour que ça avance. Est-ce que ça veut dire que pour l'éternité, on clôt le débat de l'adhésion de la Turquie à l'Europe? Sûrement pas. Mais est-ce qu'on est suffisamment réaliste pour se dire que ce n'est pas pour maintenant? Évidemment.
Nathalie Loiseau, un dernier mot d'un autre scrutin prévu cet automne. Il y a beaucoup de scrutins en Europe et les Catalans veulent organiser un référendum sur l'indépendance. Il y a de plus en plus de régions européennes qui ont comme ça des velléités d'indépendance. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, et comment l'Europe doit répondre à ces attentes alors qu'elle a été fondée sur les États-nations et qu'elle aimerait un peu se refonder?
On a de plus en plus besoin d'unité, et la plupart des sujets, voire tous les sujets auxquels nous sommes confrontés, appellent à des réponses continentales. Le drame que vient de vivre non seulement l'Espagne, mais la Catalogne avec les attentats terroristes qui l'ont frappé, nous le montre à nouveau. C'est en étant plus unis, mieux coordonnés et en répondant au niveau le plus élevé possible, le moins local possible, qu'on peut être efficace. Donc ces velléités d'autonomie, d'indépendance, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je ne sais pas si elles sont véritablement à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je ne le pense pas, en tout cas.
Merci, Nathalie Loiseau, d'avoir été notre invitée aujourd'hui.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de RFI ou bien sur France 24.